Bonjour à tous, à tous, pour celui, celle sur Zoom ou la, ainsi l'Assemblée. Avant d'écouter la parole de Dieu, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous avons un cœur de reconnaissance de célébrer le culte, ce moment, pour de rendre la gloire. Seigneur, que tu es le roi des rois. Nous sommes très reconnaissants d'avoir saisi cette occasion de te louer, de t'adorer, Seigneur. Bénis ce culte, bénis ta parole, et que ta parole qui puisse nous éclairer notre pensée et qui puisse appliquer dans notre vie. Merci Seigneur, je prie en ton nom Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, je vais partager mon prédication. Le thème est les mauvaises conséquences des choix de Salomon. Du livre de 1 Samuel au livre de 1 Rois, chapitre 11, nous lisons que le peuple d'Israël est entré dans l'ère du royaume. Au cours de cette période, il y avait trois rois célèbres, le roi Saül, le roi David et le roi Salomon. Les spécialistes des Écritures appellent cette période, la monarchie unifiée. Le peuple d'Israël s'est complètement soumis à la direction de ces trois rois. Lorsque David régnait, le pays était sain et sauf. Il a vaincu de nombreux peuples autour de lui. Tout le peuple d'Israël a suivi David et la nation a prospérer. Après la mort de David, son fils Salomon a hérité du trône. Salomon était le roi le plus sage de l'histoire. Les rois des pays voisins s'inclinaient devant lui. C'est pourquoi, à l'époque de Salomon, il n'y avait pas de guerre. Le peuple menait une vie paisible et heureuse. Le roi Salomon avait une relation très étroite avec Dieu. Il a fallu 7 ans pour construire le temple de Dieu. Nous voyons que durant le règne du roi Salomon, le peuple d'Israël était à son apogée. Salomon a construit le temple. Les gens avaient un lieu pour les sacrifices et pour le culte. Il tuait souvent un millier de moutons et holocaustes. Il allait au temple tous les jours pour louer le Seigneur et crier « Alléluia ». À première vue, le roi Salomon semble être un très bon roi. En fait, qui peut dire qu'il sert vraiment Dieu ou ne sert pas Dieu? Voici le commentaire que nous lisons à propos de Salomon dans la Bible. En Rois, chapitre 11, 3, verset 6. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournaient son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entière à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Simoniennes, et après Micom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne sut point pleinement l'Éternel comme David, son père. Salomon était un roi sage et il avait demandé à Dieu cette sagesse. Mais la Bible rapporte qu'il a suivi ses concubines pour adorer les idoles dans ces dernières années. Quel genre de sagesse le roi Salomon a-t-il obtenu? Quel genre de sagesse le roi Salomon a-t-il obtenu? À votre avis, quel genre de comportement une personne sage doit-elle adopter? Y a-t-il de telles personnes autour de vous? Décrivez-vous leurs caractéristiques. Et vous, quel genre de sagesse recherchez-vous? La Bible nous encourage à rechercher la sagesse comme Proverbe chapitre 4, versets 5 au 9. À qui est la sagesse? À qui est l'intelligence? N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne t'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquier la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquier l'intelligence. Exhorte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur la tête une couronne de grâce. Elle tombera d'un magnifique diadème. Il existe différents types de sagesse mentionnés dans la Bible. Par exemple, un Corinthien parle de la sagesse dans ce monde. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. La sagesse de ceux qui sont sur le point d'être anéantis. 1 Corinthiens 2, verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. La sagesse de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 2, 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. La sagesse du Christ, 1 Corinthiens, chapitre 1, 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Pour finir, l'Ecclésiaste mentionne la sagesse qui cause du sacrin. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chacun. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Dans ces dernières années, à cause d'une idolâtrie excessive, la sagesse de Salomon est devenue comme la sagesse du monde. Finalement, ses actes ont laissé de mauvaises conséquences que son fils va subir. Nous avons vu cela dans le chapitre 12. Auparavant, lorsqu'il offrait des sacrifices au temple, il priait pour les péchés du peuple et implorait la miséricorde de la grâce de Dieu. Où est maintenant le roi bienveillant et plein de sagesse? Or, ce roi qui se livre à la luxure considère le peuple comme ses esclaves. Pour loger 1000 femmes, on ne sait pas combien de main-d'œuvre et de ressources matérielles ont été utilisées, ni combien d'impôts ont été imposés. Salomon n'a-t-il jamais pensé à la souffrance du peuple? Ne peut-il pas du tout entendre les pleurs et les cris du peuple? C'est le cas quand une personne ne plaît pas à Dieu, son cœur devient dur. Cette personne devient très égoïste quand elle est fière. Si vous ne craignez pas Dieu, vous perdrez la sagesse. Pour des raisons politiques, Salomon a dû conclure des alliances avec les pays voisins et a épousé des femmes étrangères. Il ne s'attendait pas à ce que les concubines l'attirent pour adorer d'autres dieux. Pour plaire à ces femmes, Salomon a même construit des autels pour ces deux dieux près de Jérusalem. Finalement, il est tombé dans le piège de l'idolâtrie. Dieu était en colère contre Salomon parce que son cœur s'était éclaté du Seigneur qui lui était apparu deux fois. Le calcul de Salomon n'en valait pas la peine. Il s'est fié à sa propre intelligence, pensait qu'il pourrait étendre son pays par ses alliances. Mais il ne s'attendait pas à attirer autant de troubles intérieurs et extérieurs. Par conséquent, le jugement de Dieu est venu. D'abord, Ada, l'Édomite et Hénoun, le roi de Syrie, se sont levés contre Israël. Puis le serviteur de Salomon, Jéroboam, le fils de Nabat, s'est aussi révolté contre le roi. De l'échec du roi Salomon qui était en relation avec ses femmes païennes, nous savons aujourd'hui que lorsqu'un chrétien est dans une relation amoureuse avec une incroyante, ou même qu'il se marie avec elle, des problèmes similaires finissent par surgir. Y a-t-il des exemples de réussite à mener d'autres personnes à croire au Seigneur après s'être marié avec elles? Y a-t-il des exemples de réussite à amener d'autres personnes à croire au Seigneur après s'être marié avec elles? Combien de ces situations? Comment puis-je éviter de suivre mon conjoint pour adorer d'autres dieux? Et comment influencer mon conjoint et l'amener à croire au Seigneur? Nous devons considérer sérieusement que si d'autres ne croient toujours pas au Seigneur, nous devons en assumer les conséquences. Salomon, le roi sage, a fait de mauvais choix et a reçu la punition. Pas seulement pour lui-même, mais pour le royaume d'Israël. Ce sont les mauvaises conséquences de ses actes. Nous pouvons voir aussi à partir du chapitre 12 qu'Israël était au départ une nation complète. Mais maintenant, le nord et le sud se séparent et les deux pays sont gouvernés par deux rois. Le roi Salomon a laissé deux conséquences très graves au peuple d'Israël. Premier point, la perte de la sagesse qui est nécessaire pour distinguer le bien du mal. Deuxième, une lutte de pouvoir sans fin. La première conséquence, 1 Rois, chapitre 12, versets 3 au 4, on l'envoya appeler à loge pour Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vint à Jéroboam et lui parlait ainsi. Ton père a rendu notre jour dur. Toi maintenant allège cette hutte, servitude et le jour pesant que nous a imposé ton père et nous le servirons. Le roi Salomon a fait de grandes réalisations, telles que la construction du temple et du palais. Mais ces grands projets nécessitaient de nombreuses personnes qui ont travaillé dur, qui ont porté un lourd fardeau. S'il ne s'agit que qu'un travail à court terme, les gens sont heureux d'y participer. Mais les gens ont découvert plus tard qu'à peine un projet se terminait, qu'un autre allait commencer. Et ils ont travaillé dur constamment. Le roi Salomon a régné pendant 40 ans et ils ont vécu durement pendant 40 ans. Après avoir travaillé dur pendant si longtemps, les gens se sentaient fatigués et ne pouvaient pas le supporter. Alors, il y avait des plaintes. Bien sûr, ils espéraient que le roi pourrait entendre leur tolérance afin qu'ils puissent avoir une vie plus facile. Lorsque le roi Salomon est décédé, lorsque le nouveau roi Roboam est monté sur le trône, c'était le meilleur moment pour eux d'exprimer leurs vœux. Jéroboam, c'était un homme influent. Il avait occupé des postes importants sous le roi Salomon et était assez célèbre parmi le peuple d'Israël. Les Israélites ont demandé à Jéroboam de parler au nouveau roi et étaient prêts à servir fidèlement le roi et à être ses serviteurs. Les revendications de ces gens étaient très simples. Ils espèrent vivre une vie meilleure et ne pas travailler si dur. Tant que le roi sera bon avec le peuple sera bon avec le roi. Une telle demande est une règle générale pour résoudre les différends entre les personnes. Dans Matthieu 7, verset 2, « Quelle que soit la mesure que vous utilisez pour mesurer les autres, vous devez utiliser la même mesure pour vous-même. Si vous traitez mieux les autres vous traiteront mieux. Si vous n'êtes pas gentil avec les gens, les autres seront méchants avec vous. Soyez sincèrement gentil avec les gens. Ce ne sera peut-être pas facile à vivre pendant un moment. Mais un jour, les gens apprécieront votre gentillesse. Quand ils s'en rendront compte, ils vous traiteront avec gentillesse. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été après de Salomon, son père, pendant sa vie. Et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'il lui dit. Si aujourd'hui tu rentres service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par tes paroles bienveillantes, Ils sont pour toujours tes serviteurs. Les anciens ont vécu beaucoup d'expériences et connaissent la souffrance des gens. Ils savent la vérité que l'eau peut emporter et renverser un bateau. Le peuple peut se soumettre au roi ou il peut se soulever et renverser le roi. Si un roi ne parvient pas à obtenir le soutien du peuple, cela provoquera le désordre. Le roi ne doit pas profiter du pouvoir pour donner le peuple. Au contraire, un bon roi doit être le serviteur du peuple et travailler pour le bien-être du peuple. Être roi, c'est être comme un serviteur. C'est le conseil des anciens. Le roi joue le rôle du parent pour le peuple et il doit traiter le peuple avec le cœur d'un parent. Il doit les prendre en considération et les aider à résoudre leurs problèmes afin qu'ils puissent vivre une bonne vie. De cette façon, le peuple sera reconnaissant envers le roi et le peuple obéira volontairement et servira le roi. Et voici ce que lui dirent les gens, jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre jour pesant. Et toi, allège-le, nous. Tu leur parleras ainsi, mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a satié avec des fouets et moi, je vous satierai avec des scorpions. Le roi Roboam a demandé aux jeunes qui ont grandi avec lui et a finalement accepté leur opinion. Combien les jeunes peuvent être arrogants? Si les jeunes ont vraiment de grandes capacités, ça va. Mais malheureusement, ces jeunes ne savent pas de quoi ils parlent. Ils utilisent seulement de grands mots. Il faut vraiment être arrogant pour dire que son petit doigt est plus gros que les reins de son père. Beaucoup de jeunes sont tellement arrogants, font ce qu'ils veulent, quelles que soient les conséquences. La Bible dit que les hommes sont comme des brebis qui s'égarent et chacun s'est tourné vers sa propre voie. Plusieurs fois, nous sommes comme ces jeunes ignorants, arrêtés sur nos propres opinions et nous tournons vers notre propre voie. Alors, nous offensons Dieu. David le savait bien, alors il a dit dans Psaume 19:13, « Préserve aussi ton serviteur des orgueilleuses qui ne dominent point sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. » Prions pour que Dieu nous aide. Méfions-nous toujours de nous-mêmes comme David. N'agissons pas de manière insensée. Laissons Dieu limiter nos paroles et nos actes. C'est dommage que le Roboam ait perdu la sagesse de distinguer le bien du mal. Il a choisi de suivre ses jeunes pour gouverner le pays. ce qui est vraiment insensé. Il va être un roi élevé et non un serviteur. C'est pourquoi l'avenir du pays sera ruiné. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus est le chef de l'Église. Il est notre bon berger. Et il est un exemple à suivre. Nous devons lui demander de la sagesse pour être un bon serviteur et pour servir nos frères et sœurs avec humilité, pour être un fidèle gestionnaire dans sa maison. Deuxième point, une lutte de pouvoir sans fin. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, « Quelle part avons-nous avec David ? Nous n'avons point d'héritage avec le fils de Jessé. À tes temps, Israël, maintenant, pourvois à ta maison, David, et Israël s'en alla dans ses tentes. » Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé aux impôts. Mais Adoram fut lapidé par tout Israël et y mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Les dix tribus d'Israël ne se sont pas soumises au règne de Roboam. Roboam ne dit juste que la tribu de Juda. On peut dire que la majeure partie du pays a été perdue en un clin d'œil. Jéroboam voit se réaliser la promesse que Dieu lui a donnée. Un roi, chapitre 11, 38. Dieu lui dit, « Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi. Je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David. Et je te donnerai Israël. » Jéroboam a entendu la parole du prophète de ses propres oreilles et a personnellement vu comment les 10 tribus d'Israël lui ont été données. Mais en un clin d'œil, il a commencé à utiliser ses propres méthodes pour gouverner le pays. Jéroboam dit en son cœur, « Le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retourna à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. » Les gens agissent en s'appuyant sur leur manière de penser logique et non pas la foi pour recevoir la promesse de Dieu. Les gens agissent en s'appuyant sur leur manière de penser logique et non par la foi pour recevoir la promesse de Dieu. Les gens agissent en s'appuyant sur leur manière de penser logique et n'ont pas la foi pour recevoir la promesse de Dieu. Si nous nous mettons à la place de Jéroboam, en vous fiant à la logique humaine, vous penserez que c'est vous qui avez obtenu ce pays et non pas qu'il a été donné par Dieu. Donc, vous allez vous appuyer sur vos méthodes pour le stabiliser. En vous fiant à la logique humaine, vous penserez que c'est vous qui avez obtenu ce pays et non pas qu'il a été donné par Dieu. Donc, vous allez vous appuyer sur vos méthodes pour le stabiliser. Les idées de Jéroboam sont conformes à la logique humaine. La logique humaine, c'est essayer de tout prévoir. La logique humaine, c'est d'essayer de tout prévoir. Et ce que le diable espère le plus voir. Et c'est ce que le diable espère le plus voir. Sachez qu'il y a des principes spirituels à respecter. Sachez qu'il y a des principes spirituels à respecter. Ce principe spirituel est que, puisque la volonté de Dieu est évidente, tant que nous avons un cœur obéissant et que nous marchons sur le chemin de Dieu, nous réussirons tout au long de notre vie. En fait, nous devons suivre le chemin du Seigneur et le plus grand ennemi est notre façon de penser. Nous devons suivre le chemin du Seigneur et le plus grand ennemi est notre façon de penser. Si nous comptons sur notre propre logique pour penser, nous serons confus et corrompus. Selon la pensée humaine, Jéroboam a fait faire de veau d'or pour résoudre le problème du Dieu où son peuple allait sacrifier à Dieu. Selon cette logique, la méthode est très simple. Elle consiste à suivre les souhaits du peuple et à la place un veau d'or à Dan et l'autre à Bethel. Jéroboam a changé le lieu de culte. Jéroboam a changé le lieu de culte. Les fêtes. Et il a mis en place des sacrificateurs pris parmi le peuple et qui n'appartiennent pas au fils de Lévi. Jéroboam a changé le lieu de culte, les fêtes, et il a mis en place des sacrificateurs pris parmi le peuple et qui n'appartiennent pas au fils de Lévi. Après s'être consulté, le roi fit de veau d'or et il dit au peuple, « Assez longtemps, vous êtes monté à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit d'autres à Dan, Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartiennent point au fils de Lévi. Nous voyons que la fin tragique de Jéroboam, qui est situé dans le texte 1 Rois 13, 33, 34. Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêtres, des hauts lieux pris parmi tout le peuple. Quiconque en avait de désir. Il consacrait prêtre des hauts lieux. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam. Et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la face de la terre. La mauvaise conséquence des choix de Salomon. Notre Dieu est un Dieu qui s'occupe de l'histoire. Jéroboam est responsable de sa propre décision insensée. Jéroboam conduit les 10 tribus du nord d'Israël à se révolter et il doit également porter la responsabilité. Mais rien de tout cela n'échappe à la souveraineté de Dieu. Rappel pour les croyants, nos péchés peuvent aussi provoquer des conflits entre les gens et la discorde entre les églises. Tout cela parce que nous n'avons pas marché selon la parole de Dieu et n'avons pas agi selon les instructions de Dieu. Demandons vraiment à Dieu de nous pardonner et de nous aider. Prenons la décision d'obéir à Dieu et de faire sa volonté. Nous devons réfléchir profondément avant d'agir. Nous devons réfléchir profondément avant d'agir. Quoi que nous faisons, cela aura un résultat bon ou mauvais pour la prochaine génération. J'espère que nous pouvons tout faire demi-tour, à temps et être des gens qui obéissent complètement à la parole de Dieu. Le Seigneur qui nous aide d'avoir le courage, aussi avoir la foi de mettre sa parole en pratique. Prions ensemble. Seigneur, que nous avons un cœur de reconnaissance, de vraiment comprendre ta parole. Ça fait du bien pour nous de ne pas commettre le même erreur comme le roi de Salomon, ainsi tous les rois. Que Seigneur, tu nous aides vraiment à avoir un cœur d'obéissance, de mettre ta parole en pratique. Nous sommes très faibles, Seigneur. On a besoin de l'Esprit qui saint, qui nous domine, qui nous dirige, de marcher dans le chemin où tu veux qu'on devait être, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci. Je prie en ton nom, Jésus-Christ. Amen.